Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission Histoire d'en savoir plus. Et aujourd'hui, Histoire d'en savoir plus sur le métier d'éditeur. Et pour cela, je reçois M. Christophe Pratt, qui a réussi à se dégager un petit peu de temps pour venir dans nos studios à Radio Grand Ciel. Bonjour Christophe Pratt.
Bonjour, bonjour à tous. C'est plus facile de se dégager du temps dans les jours qui précèdent Noël que plus tôt, c'est vrai.
Dites-moi, comment devient-on éditeur ?
Oula, alors ça c'est une très très grosse question parce que je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour répondre. Moi je suis devenu éditeur par accident. Il y a une dizaine d'années, j'ai écrit des petits trucs et puis il y a 5 ans... En fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de talents dans le département, entre la Beauce, le Perche, le Timray, mais qu'il n'y avait pas d'éditeur national qui les défendait, ces auteurs. Et c'est vraiment l'accident qui fait que je me suis dit, on va créer une maison d'édition pour ces auteurs. Ça, c'était donc il y a 5 ans. Elle a été créée il y a 4 ans, en 2012, pardon. Donc c'est un accident. Les autres, j'avoue que je ne sais pas comment ils décident de devenir éditeur.
Mais vous avez commencé par écrire quand même, ça c'est important.
Oui, c'est ce qui fait que je me suis lié aux auteurs de la région, de la Vendée aussi. J'avais commencé à écrire en 2005-2006, un premier roman publié à compte d'auteur, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Il ne faut jamais accepter les comptes d'auteur parce que c'est une grosse source de désillusion. Et partant de là, avec toutes les rencontres que j'ai faites, j'ai continué à écrire. Donc j'ai eu 5 ou 6 romans publiés. Mais depuis que je suis éditeur, je n'ai plus
à temps complet. Vous n'avez plus que ça maintenant. Vous avez laissé une profession pour vous occuper des livres.
Absolument. En juin de cette année, donc 2016, j'ai quitté mon travail d'ingénieur en télécommunication. D'une part parce que mes enfants étant élevés, je me suis dit maintenant on peut prendre plus de risques financiers. Et puis d'autre part, parce que quand on a dépassé les 50 ans, on se dit c'est le moment de faire quelque chose de nouveau, de créer, de prendre des risques. Alors qu'avant, on n'a pas le temps d'y penser. Quand on a une famille, quand on a des activités d'écrivain, justement. Donc c'était cette année, je suis devenu éditeur à 100% et j'espère pouvoir encore mieux promouvoir nos auteurs. Qui ont vraiment du talent, nos auteurs.
Alors ça se présente comment, une maison d'édition ? C'est un bureau, en fait.
C'est un bureau, c'est même un bureau complètement virtuel. Parce qu'en fait, l'éditeur, qu'est-ce qu'il fait ? Chez nous, on a, comme la plupart des maisons d'édition, en l'occurrence, on a un comité de lecture qui reçoit maintenant, c'est des dizaines par mois de manuscrits, de projets, dans tous les genres, de bandes dessinées, d'albums jeunesse, de romans, de biographies. Et ce comité de lecture, on a une présélection très rapide qui fait qu'on en élimine plus de 9 sur 10 parce qu'ils ne correspondent pas à ce qu'on saura défendre. Et ensuite, les projets qui vraiment nous semblent capables de trouver leur lecteur dans notre réseau de diffusion, de distribution, on les retient. Alors tout ça pour dire le comité de lecture, c'est complètement virtuel, donc il n'y a pas de local puisque ce sont des personnes, il y en a au Québec, il y en a dans le sud de la France, il y en a en Vendée, il y en a un peu partout. Ils travaillent les manuscrits sur ordinateur, ils lisent les manuscrits sur ordinateur, ils rédigent leurs fiches aussi sur ordinateur. Donc on n'a pas de lieu, on n'a pas de bureau, on n'a pas de machine autre que l'ordinateur, le téléphone, et on s'échange comme ça. Et quand on publie, c'est la même chose puisqu'on fait imprimer de préférence dans la région Centre-Val-de-Loire, mais on fait imprimer en tout cas chez des entreprises externes. On sous-traite l'impression des livres, on sous-traite la conception, la fabrication, la création des couvertures, les corrections. Donc la maison d'édition, c'est complètement virtuel. Il y en a qui ont du personnel sur place, nous c'est pas le cas. Tout le monde est un petit peu partout en France, voire dans le monde, il y a des personnes à l'étranger aussi.
Mais vous lisez tous les manuscrits qui sont retenus quand même.
Alors, on lit, le comité de lecture lit tous les manuscrits qui sont présélectionnés. Actuellement, ça représente environ 10 à 15 manuscrits par mois qui sont lus. Et avant de prendre une décision, il s'écoule quand même 5, 6, 7 mois.
Ah, c'est énorme!
Ah oui, parce que il faut gérer le planning. Là, aujourd'hui, on est à peu près publié une trentaine d'auteurs dans les trois régions où on travaille, l'Eure-et-Loire, la Vendée et le Languedoc-Roussillon depuis 3 mois. Donc il faut aussi penser que ces auteurs qui ont attrapé le virus de l'écriture, en fait, vont produire autre chose. Et en général, ils nous le disent. On a déjà plus d'une dizaine de publications qui vont être planifiées pour l'année 2017. Des auteurs déjà publiés chez Ella, plus quelques nouveaux, des jeunes auteurs au sens c'est leur premier ouvrage. Et ensuite, donc oui, pour répondre à votre question, pardon, oui, tous les ouvrages sont lus et sont corrigés maintenant par une correctrice professionnelle.
Ça, c'est très important dans une maison d'édition.
Oui, au début, on était très léger. Je n'ai pas honte de reconnaître, je dirais, nos erreurs.
Vous faisiez confiance.
On faisait confiance, et moi en particulier, à tout le comité de lecture. Et on publiait parfois sans que je les ai lus ou fait corriger par d'autres personnes. Et on s'est aperçu que parfois, on n'était pas forcément du même avis que le comité de lecture et qu'il fallait retravailler certains chapitres, certaines phrases aussi. Donc, en fait, c'est depuis que je suis à temps complet, depuis le mois de juin, que là, tous les manuscrits sont lus et avec attention. Et d'ailleurs, pour citer un exemple, même un auteur qui est connu nationalement tel que David Ramollet, on a retravaillé son dernier ouvrage qui s'appelle « Qui s'en souvient ?». On a passé presque 3 jours ensemble à temps plein, à retravailler une phrase par-ci, une phrase par-là, parce que j'estimais que la musique de la phrase n'était pas bonne, ou le relief de la phrase, son intensité ne collait pas avec toute la scène. Donc on a travaillé, parfois on s'est battu parce qu'il n'était pas d'accord.
Mais voilà, c'est le vrai métier du travail d'éditeur.
Exactement.
Christophe Pratt.
Oui, c'est le vrai métier que je suis en train d'apprendre. Il faut être honnête, je suis en train de l'apprendre depuis 6 mois. Dieu merci, avec des gens formidables qui m'ont montré l'exemple aussi. Dans le département, vous voyez quelques à qui je pense, qui m'ont fait comprendre qu'il faut travailler mieux.
Vous nous avez dit que vous avez cessé votre autre emploi pour ne faire plus que ça. Vous avez quand même un amour du livre, du récit, du texte, assez immodéré.
Alors, oui, c'est un amour qui grandit certainement, parce que chaque fois qu'on va sur un salon... Bon, il y a quelques temps, nous étions au salon de Nogent-le-Rotrou. Il y a eu le salon du Lions Club à Chartres le 11 septembre. Moi, je découvre des nouveaux auteurs, des nouveaux livres. Je pense un qui m'a bluffé, Les Nouveaux Mystères de Eure-et-Loire, où on découvre un tas de choses totalement méconnues du département. Il y a d'autres ouvrages... des bandes dessinées du type manga que j'ai découvertes cette année. Je me dis, mais c'est dommage, le manga s'est restreint à un public très, très, très ado, très jeune, alors qu'en réalité, on pourrait faire connaître ce type de technique de livre, en fait, à un public différent, à condition de choisir une histoire qui les touche plus, une histoire liée, par exemple, à l'histoire. Et donc, c'est des choses vers lesquelles on va. Donc oui, je découvre, et plus je découvre, plus j'aime, et plus j'ai envie de tenter des expériences.
Oui, vous imaginez publier un manga un jour ?
Oui.
Un manga, oui ?
Oui, un manga, alors complètement, et l'idée, c'est un manga très historique sur les guerres de Vendée.
Justement, ça fait plusieurs fois que vous employez le thème historique, le mot historique. Est-ce que vous avez un ton ? Est-ce que votre maison d'édition, elle là, répond à un ton précis ?
Alors, je dois dire que non. C'est une question qui m'est souvent posée et je ne sais jamais répondre très clairement. On n'a pas de... Peut-être parce qu'on est en phase de développement, mais aussi parce que notre but premier, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est de défendre des auteurs qui n'ont pas eu accès à des maisons d'édition nationales. Et nous, en tant que jeune maison d'édition, on est ouvert à tous les projets du moment qu'on sache qu'il y aura derrière un lectorat. C'est-à-dire qu'on pourra, en termes de responsabilité d'entreprise, avoir un équilibre financier et mieux encore, gagner de l'argent pour pouvoir financer d'autres projets. Donc on n'a pas de ligne éditoriale, on n'a pas de ton. Pour preuve, on vient de publier le premier roman d'un auteur qui s'appelle Richard Gougis, qui habite dans l'Hérault, alors que ce livre, a priori, n'aurait pas pu se faire connaître en Eure-et-Loire ou en Vendée, nos premières terres d'accueil, si je puis dire. Et on tente l'expérience, on tente le coup. En fait, on est prêt à tenter beaucoup de choses. Parfois, ça ne marche pas. Et puis très souvent, on découvre qu'il y a des nouvelles idées, des bonnes idées à avoir avec les gens du livre, donc les auteurs.
Donc vous ne vous restreignez pas du tout au rôle d'éditeur régional ?
Non,
pour les auteurs locaux ?
Non, 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 on est prêt à publier. Et d'ailleurs, ça a été le cas il y a 2 ans, ce sera le cas à nouveau l'année prochaine. On publie des auteurs qui n'ont rien à voir avec le Réloir ou dont l'ouvrage n'a strictement rien à voir. Je pense, je cite encore David Ramollet et son titre « Qui s'en souvient ?». Il est... On pourrait le faire connaître aux lecteurs parisiens aussi bien qu'aux lecteurs marseillais. C'est juste un ouvrage contemporain formidable. À l'inverse, on continue de publier de très bons ouvrages liés, par exemple, à l'Eure-et-Loir. Je pense au roman de Pierrick Jégorel, Terre amoureuse, qui est un superbe jeu de piste dans l'Eure-et-Loir, où on découvre des bâtiments religieux à Chartres. Je n'en dirai pas plus pour voir l'angle de vue qu'il a choisi pour découvrir ce bâtiment en particulier. On découvre une fête à Fontaine-l'Aiguillon que tout le monde a oublié, malheureusement, la Saint-Gorgon, qui était une fête formidable il y a 30 ans. Et il y a plein de choses à découvrir. En fait, je reboucle avec la question, notre couleur, notre ligne, notre ton, c'est découvrir des choses, alors effectivement très souvent liées quand même à l'histoire, mais des choses qu'on a oubliées. Grâce à l'imagination.
Que vous ressortez, en fait, avec vos auteurs. Vous êtes sur Radio Grand Ciel, c'est l'émission Histoire d'en savoir plus, et aujourd'hui, Histoire d'en savoir plus sur le métier d'éditeur avec Christophe Pratt, que je prenais pour un éditeur local et qui finalement souhaite une distribution beaucoup plus large.
C'est très juste, je reprochais à l'un de nos auteurs samedi dernier d'avoir utilisé face à un journaliste le terme maison d'édition locale, et je lui ai dit, mais... Aberfan Project, ça n'a rien de local. La Chambre des guetteuses de Frédéric Parra, qui a été lauréat du premier concours de romans policiers du département. En fait, un tiers du livre est en Argentine. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'on est une maison d'édition locale quand un tiers des chapitres est en Argentine, l'autre tiers est en Espagne? Et effectivement, on est une jeune maison d'édition. Nous avons démarré, je l'assume et je le revendique avec, je dirais même avec fierté, par mettre en valeur les écrivains de Ré-Loire qui n'avaient plus d'accès à l'édition, à part quelques-uns chez Deboré, par exemple. Mais malheureusement, les portes sont pas grandes ouvertes. C'est compliqué de prendre des nouveaux projets. Donc je le revendique, on l'a fait, on a réussi. Mais maintenant, je dirais un ouvrage sur deux que l'on publie est destiné à un public très très large qui n'a plus rien à voir avec ni le Ré-Noir, ni la Vendée.
Sauf Christophe Pratt, qui a un problème de distribution, après.
Alors ça, c'est une remarque très intéressante et très intelligente. Pourquoi ? Parce que notre modèle, il est très particulier. Chaque fois qu'on a décidé de publier un auteur et de conquérir un territoire, on a créé notre propre chaîne de distribution-diffusion, ce qui nous a permis de créer un emploi en Eure-et-Loire, un emploi en Vendée, plus quelques emplois annexes aussi. Et là, quand on a démarré dans le Languedoc-Roussillon, on a créé un emploi aussi. On crée à chaque fois une chaîne très, très performante de distribution-diffusion pour, je dirais, compléter ce que font les maisons d'édition nationales qui ne servent que les librairies de niveau 1, niveau 2, les grandes surfaces. Alors qu'il y a plein de points de vente possibles dans des petits villages, et ce qui permet de remettre le livre en quelque sorte à portée de, j'allais dire à portée de main, mais plutôt à portée de regard des habitants du village. Ça nous tient à cœur.
C'est important à une époque où beaucoup de librairies ferment finalement, que le livre soit dans les fins fonds des petits villages.
Moi, je le pense. Je le pense que c'est très important parce qu'on a toute une génération, on va dire, de plus de 50 ans, 60 ans, qui ne va pas forcément acheter des livres sur Internet, qui a envie de toucher les livres ou de les feuilleter.
C'est
de
un
lire
objet,
quelques...
un livre, ça se touche, oui.
Absolument, oui. Qui veut regarder, qui veut lire quelques pages, qui veut éventuellement discuter avec une personne sur place. Ça ne se fait pas par Internet. Et puis aussi, c'est une vraie défense. Alors, c'est très modeste, hein. On représente pas des millions d'euros de chiffre d'affaires, loin de là, mais c'est aussi une défense de l'économie locale. Et ça, c'est important aujourd'hui où on détruit des grandes sociétés dont, évidemment, je ne peux pas prononcer le nom, mais détruisent des pans d'emploi entiers. Ben, nous, à notre humble niveau, on recrée de l'emploi autour du livre. Et c'est peut-être la plus grande fierté de la maison d'édition, d'ailleurs, créer de l'emploi.
Oui, parce que dites-moi, vous n'êtes pas quelqu'un de romantique et qui s'attachait à des histoires. Vous êtes un homme d'affaires, en fait. Un entrepreneur, disons.
Alors, merci beaucoup, Madame Loison, parce qu'en fait, je crois que l'éditeur, c'est un petit peu ça. C'est le partage entre le responsable, le chef d'entreprise qui doit tenir des objectifs financiers et le romantique, c'est le terme que vous avez utilisé, qui se noie et qui se berce des histoires qu'écrivent les auteurs.
Donc, et ça ne faut pas.
Si, il faut c'est aussi. Le compromis entre les deux, je pense, qui est... je ne sais pas, compromis, ce n'est peut-être pas le bon terme, mais c'est le...
L'équilibre, peut-être.
Oui, c'est ça. C'est l'équilibre entre les deux, entre le gestionnaire d'entreprise et l'amoureux des belles histoires... qui fait qu'on réussit à développer la maison d'édition, je pense.
Alors comment ça se passe quand un auteur vient vous trouver avec un premier livre ? Je prends l'exemple d'Olivier Cogent, qui a un gros livre, qui se lit extrêmement bien, mais qu'il vous apporte un tome 2, puis un tome 3. C'était prévu au départ, ça ?
Alors, c'est bien plus rigolo que ça, l'histoire avec Olivier Cogent. En mars, je crois, février ou mars 2015... Olivier Cogent entend parler de la maison d'édition et là, peut-être était-ce lors d'une précédente interview d'un des auteurs, je ne sais pas, et il nous envoie un pavé de 1000 pages. Et moi, pour des questions de chef d'entreprise et financière, je ne savais pas à l'époque publier un livre de 1000 pages parce qu'on veut respecter un plafond de prix qui est 20 euros. On ne veut pas vendre de livres à plus de 20 euros dans le registre des romans, des livres enfants. Et quand on reçoit cet ouvrage, je réponds à Monsieur Cogent, écoutez, le comité de lecture adore votre livre, mais moi, je ne suis pas capable de le publier. Par contre, il y a un concours qui existe, le prix du manuscrit de Beausset et Dunois, et je crois qu'il rentre dans le cadre, vous devriez tenter votre chance. Il tente sa chance et il devient le lauréat sur manuscrit du prix de Beaucé-Dunois 2015. Et là, dans ses remerciements, il se tourne naturellement vers Ella Édition et me dit « Mais je vais vous le proposer à la publication ». Et je lui réponds « Mais c'est la même chose que l'année dernière, je ne pourrais pas, sauf si on le coupe en deux ». Et il a accepté, donc on a publié son roman qui faisait 1000 pages en deux tomes de 400 et quelques pages, un grand format, 16-24. Mais il avait déjà gagné le prix, ce qui était assez formidable en fait, c'était très rigolo. Là, ça a été un petit peu l'inverse.
Le monde à l'envers.
Le monde à l'envers, oui. Et il ne m'avait pas dit à l'époque qu'il y aurait 3 tomes, voire 4 tomes. Son 3e est en cours d'écriture et devrait paraître en septembre 2017, entre août et octobre 2017.
Quand vous parliez de l'aspect du livre, du papier, des caractères assez gros et assez aérés finalement, vous avez des choses auxquelles vous tenez ?
Alors effectivement, on fait très attention, puisque comme j'expliquais, on remet le livre à portée de regard et surtout pour une tranche d'âge... je dirais des plus de 50 ans, on fait attention à la police de caractère, à ce que ce soit le plus lisible possible. Pour les livres enfants, puisqu'on a maintenant une collection livres enfants qui se développe, on prend des typologies un petit peu plus faibles, mais on a aussi envie que ce soit très très confortable. Donc on ne serre pas sur la police de caractère,
ni non plus
sur le papier. Il faut, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un objet et il faut que l'objet soit aussi agréable au toucher. On a d'ailleurs publié La Chambre des guetteuses en faisant une première expérience de couverture dite soft touch. C'est,
oh là là.
C'est une couverture qui donne une sensation de velours quand on passe la main dessus. Et c'est effectivement très agréable. Bon, le problème, c'est que c'est le responsable d'entreprise qui explique. C'est un petit peu plus cher, ce qui fait que la rentabilité, elle est compliquée à obtenir. Mais en tout cas, on a fait l'expérience et c'est un objet très agréable.
Vous avez parlé de littérature enfantine, enfin pour la jeunesse. Ça se passe comment alors ? Vous avez choisi, vous avez rencontré des auteurs qui ont écrit pour la jeunesse plus particulièrement ?
Alors, c'est exactement le même principe que pour les autres registres, romans adultes, biographies. Et nous avons un comité de lecture, mais dédié aux ouvrages jeunesse. Il y a 7 personnes, dont 2 jeunes institutrices de moins de 30 ans, qui connaissent très bien les enfants. Donc tous les projets passent dans ce comité de lecture. Ça peut être des auteurs déjà publiés chez Ella Édition, comme ce fut le cas pour Pierrick Jégorel. On a publié en juillet 2015 le Mystère du chêne fauteuil. Comme Frédéric Parra, qui est un des auteurs dont on est très fier d'avoir publié le premier ouvrage. Il y a 2 ans, il a proposé un texte enfant. Elliot et la malédiction du berger sorcier. Et c'est passé dans le comité de lecture, tout le monde a adoré, donc même chose, on publie. On ne va pas chercher les auteurs jeunesse, ceux qui s'aperçoivent que chez Ella Édition, on a maintenant un catalogue qui s'étoffe, nous propose des projets, et puis quand ça nous plaît, on les publie. En ce moment, on discute sur un album enfant par 2 auteurs enseignants dans le Perche. L'un a déjà écrit quelques ouvrages, l'autre illustré quelques ouvrages. Et ce serait pour un public de 4 à 7 ans, un conte poétique. Simplement, il est tellement beau ce conte, qui s'appelle « À l'ombre d'un parapluie », que je leur ai dit « Mais tentez votre chance d'abord chez des grandes maisons d'édition. Moi, je vous fais signer le contrat tout de suite si vous voulez, mais il est tellement chouette ». Peut-être que ça serait bien que vous alliez chez Bayard ou chez l'école des loisirs. Donc on va voir.
Ce qui est une grande ouverture d'esprit, dites-moi, quand même.
Quand on a un très très bel ouvrage entre les mains, je crois qu'il faut laisser la chance d'être à un niveau supérieur en termes de percer chez les libraires. Nous, notre réseau de libraires, ça doit faire... une 50aine de libraires niveau 1 et niveau 2 dans tous nos départements.
Qu'est-ce que vous appelez le niveau 1, niveau 2 ? Ça fait plusieurs fois que vous employez l'expression.
Bah ce sont Alors le niveau 1, il y en a 800 en France. Ce sont les plus grosses librairies dont fait partie l'Esperluette à Chartres, par exemple. Les librairies Mola, Gibert, les grosses librairies parisiennes. Et les niveaux 2, ce sont celles qui sont juste après, en termes de chiffre d'affaires. Ça s'évalue en chiffre d'affaires. Et il y en a 3600 qui sont dites niveau 1, niveau 2, qui sont distribuées ou prospectées par les commerciaux du groupe Hachette, la Sodis, etc. ce sont ces niveaux. Et nous, on est très faibles dans le domaine. Mais grâce à un titre, donc celui qui vient d'être publié dans le Languedoc-Roussillon, Hérésie, nous avons eu un auteur invité à l'une des plus grosses librairies de France, c'est la librairie Sorambs à Montpellier, et puis à la librairie Gibert. Donc on souhaite effectivement pénétrer un peu plus le marché des libraires qui nous prenaient jusqu'à présent pour des éditeurs locaux, régionaux, et qui ne lisaient même pas nos ouvrages. C'est ce qui nous rendait très tristes. Les grosses librairies disaient « vos couvertures, elles sont bizarres, elles font des années 70 ». Je dis « bah ok, mais les lecteurs, ils regardent aussi ce qu'il y a dedans, puis ça leur plaît et on réimprime ». Là, on vient de réimprimer pour la quatrième fois « L'enfant du vitrail », on vient de réimprimer « Pierre de l'espérance ». Enfin, on a 5 titres qui viennent d'être réimprimés. Donc je voudrais que les libraires lisent ce que l'on publie, les romans de Frédéric Parra, les romans de Ludovic Lecomte et j'en passe, hein, tous nos auteurs.
Vous êtes une maison d'édition qui ne connaît pas le pilon alors ?
Absolument. On ne connaît pas du tout le pilon, parce que là où les maisons d'édition, on va dire nationales, publient des ouvrages et les font vivre pendant 3 à 6 mois, et ensuite c'est retiré des stocks parce qu'il faut tourner, il faut arriver avec les nouveautés. Nous, on les fait vivre entre 2 et 4 ans, puis on arrive à 4 ans de toute manière, sur des nouveaux points. Par exemple, je reviens sur le Languedoc-Roussillon, puisqu'on y est depuis le mois de septembre, on est arrivé avec un titre, et depuis 2 semaines, on présente un autre titre, et l'année prochaine, on va présenter d'autres titres qui sont déjà connus en Vendée et en Eure-et-Loire. C'est notre modèle qui est très différent. On estime qu'un livre qui est bon, il n'y a pas de raison qu'au bout de 3 mois, il sorte de tout le parc de librairies françaises. Il faut juste être un peu plus patient à notre niveau, parce qu'on a une taille beaucoup plus faible.
On arrive à la fin de cette émission, je le regrette parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire certainement. Je ne vous ai même pas demandé ce que ça voulait dire. Pourquoi Ella ?
Ella, E de Zella. J'ai un petit-fils qui s'appelle Maël et une petite-fille qui s'appelle Ella. Ella est née en mars 2012 et la maison d'édition au niveau juridique a été créée en mai 2012. Donc on a choisi le prénom Ella qui musicalement était très joli. Et depuis l'année 2015, on a créé une collection d'ouvrages qui porte le nom, le prénom de mon petit-fils Maël. Ce sont des ouvrages illustrés en couleur, dont un qui vient de sortir, qui est le lancement d'une collection. Ça s'appelle l'adoubement du petit abeilleur. Ça comprend un conte et un dossier technique sur un métier. Le métier, c'est apiculteur.
Ah oui, très bien. Et celui-là, je ne l'ai pas encore vu en librairie.
Non, parce qu'on ne l'a pas distribué pour l'instant.
Ah d'accord.
Il vient d'être imprimé.
Sur une année, vous publiez combien de textes en général ?
Alors, on était en phase de développement depuis 2012. Donc là, on va arriver au rythme de croisière qui va être entre 20 et 30 selon le nombre de régions où on va s'implanter. Mais le rythme de croisière, c'est 25.
Mais ça veut dire qu'en plus du travail qui est fait sur place, beaucoup par ordinateur, vous nous l'avez dit, il y a après tout un travail de distribution où il y a des gens qui vont dans les librairies pour proposer vos ouvrages.
Exactement. Et c'est ça la particularité de notre modèle. On crée une entreprise indépendante qui va faire la diffusion, donc la démarche commerciale vis-à-vis des libraires, dans chaque région où on veut s'implanter.
Donc beaucoup de projets déjà pour l'année prochaine, j'imagine, Christophe Pratt.
Oui. Je ne sais pas si vous voulez que je cite l'un ou l'autre des projets, mais on a déjà 10 ouvrages dans le tuyau de publication, dont un livre enfant d'Éric Chéneau, un livre enfant qui est très amusant.
Eh bien, vous viendrez nous en reparler. Merci beaucoup, Christophe Pratt.
Merci, Madame Loison. Merci beaucoup.